Le peuple de la mer, deuxième partie, chapitre 4. Le lendemain, il fut à bord du Martroger avant le patron. Il ventait jolie brise et la barque cingla vite vers le pilier, pareil, dans la brume matinale, avec sa silhouette allongée et ses deux tours, à quelques grands navires à l'ancre. L'air était vivant, corsé de salure, âpre de froid. À l'horizon, le ciel et la mer s'unissaient sous un voile qu'enfonçaient les barques sardinières, promesse de soleil pour l'après-midi. Sitôt le sloop accosté, Jean-Baptiste courut vers le sémaphore. Il ne s'inquiéta pas de Gault, perché aux enfléchures du mât à signaux et qui visait une fumée au large, à la lorgnette. Il alla droit à la gaude, debout au seuil de la maison. Frais rasé, il sentait la pommade. Elle sourit doucement, et il fut très ému. « Je sais la nouvelle, » dit-elle. « T'as perdu ton père, mon pauvre gars, et on t'attend des points. » Ce brusque souvenir le gêna. Il avait d'autres pensées en tête. « Je m'ennuyais de toi, » fit-il. « Et puis, regarde ce que je t'apporte. » Il avait hâte de montrer son cadeau, le beau collier de porcelaine rouge. Elle lui prit des mains, le tourna dans les siennes, où il roulait avec un petit bruit de billes, et, remarquant sa monture élastique, elle l'étira et se le mit au cou. Elle rit de toutes ses dents et se mira dans une petite glace où les images ondulaient. Sous la chevelure noire, le collier rutilait d'un rouge cru que soutenait le bronze de la peau. Jean-Baptiste riait par derrière. « Il est beau comme du sang, » dit-elle. En vérité, la matière sèche des perles s'attendrissait sur la nuque chaude qui les animait comme des gouttes vives. Jean-Baptiste avait une grosse joie d'enfant, une joie qui se serait manifestée par des cris et des gambades s'il ne s'était tenu à quatre, parce que ses artères battaient, que ses muscles sautaient ainsi que des ressorts. Mais quand la gaude se jeta à lui et l'embrassa violemment pour le remercier, il l'empoigna aux aisselles et la souleva, de ce geste puissant et possesseur du mal auquel les femmes s'abandonnent heureusement comme des vaincus. Une minute, les mois sacrés qui livrent l'un à l'autre deux êtres avant qu'ils ne se prennent, les troubla jusqu'au sexe. Le gars plia la femme sous son étreinte, lorsqu'elle se dégagea brusquement d'un coup d'échine, toute rieuse et toute ardente, et, le poussant dehors, lui souffla demi-bas. « Sauve-toi, sauve-toi, mon ménage traîne à cette heure. » Il obéit sans trop rechigner, parce qu'il était joyeux. Il feignit d'ignorer Gault en passant près du mât sur lequel il se tenait perché, mais une voix goguenarde au-dessus de sa tête. « Hé, bonjour, Piron !» Il leva le nez, comme surpris, répondit « Bonjour » et rentra au phare. Semelin l'accueillit avec sympathie. « T'as bien fait de revenir, petit gars. Tu prieras à l'aise pour ton vieux, ici. » Ah ça, cette mort allait-elle le poursuivre longtemps? Il croyait se heurter au pendu chaque fois qu'on en parlait. Il avait repris son poste pour la gaude, bien sûr, mais aussi pour se distraire des faces contrites et des propos apitoyés de l'herbaudière. Et voilà qu'il retrouvait l'obsession du village sur ce caillou, en plein océan. Eh bien oui, le père était mort. N'était-on pas tous mortels? Mais bon Dieu, qu'on vous ficha donc la paix tandis qu'on était là? Furieux, Jean-Baptiste s'enferma dans un mutisme que le vieux prit pour du recueillement. Lui qui avait tant de fêtes dans la poitrine. Et ses affaires rangées, il se livra avec acharnement à cette besogne d'asticage qui est la vie des gardiens de phare. Maintenant, il ne lui restait plus que la joie mauvaise d'avoir contrarié Gault par son retour imprévu. Il croyait si bien tous que la mort du père l'aurait quelque temps éloigné, mais il ne connaissait pas Jean-Baptiste Piron. Un gars qui avait du cœur au ventre et des bras pour enlever une femme, quand il voulait. En goût de défi, l'énergie provocante, il jura de regarder Gault face à face désormais, en adversaire. D'ailleurs, il n'avait jamais dissimulé, la ruse des villes n'étant point le fait des gens de mer. Mais au début, il s'effaçait devant le mari. C'était qu'il retrouvait en lui la gaude et n'avait point de désir impérieux. À présent, la victoire serait au plus fort, au-delà des droits. Et il se mit à exécrer l'homme, d'autant plus qu'il le savait jaloux. À l'Herbaudière, on se moquait de Gaud.
« Qui couvait sa femelle ?» disait Perchet. « Quasiment comme un œuf, sans la faire éclore. »
Car elle n'a jamais eu d'enfant. Il s'est souvent battu pour elle et n'a pas toujours été le plus fort. Témoin cette dernière lutte où Doublenaire lui a troué les côtes. La hantise du cocuage l'a rendu sournois. Il rôde, guette et ricane pour dissimuler ses soupçons. Il s'ingénie pour attacher sa femme, alors qu'elle le tient, ainsi qu'un chien en laisse, sans y prendre garde, par la seule puissance de sa chair. C'est pour cette chair qu'il l'avait épousée jadis, au Sable d'Olonne, bien qu'elle eût déjà pas mal traîné, comme la plupart des filles de ce pays, à la charpente et au tréfort, aux yeux insolents, aux hanches vives. Elle travaillait à la sardine, et on l'appelait « marée montante », à cause de la glorieuse poitrine qui, dès sa puberté, souleva son corsage comme un flux. Quand il la vit, Gaud tomba dans l'amour, comme à la mer, et s'y noya. C'est que les hommes qu'une femme a empoignés par sa peau sont perdus sans rémission. On endort peut-être bien son cœur en le berçant avec des chansons, mais on ne calme point sa bête, à moins de l'égorger. Le gars qui naviguait au thon, embarqua sur une sardinière parce qu'il ne pouvait vivre une semaine à la mer avec l'inquiétude de sa femme abandonnée à terre. Il lui fallait revenir chaque soir au port, où il retrouvait la gaude parmi les piles de paniers, les mannes de sel qui sent la violette, les bottes de fougère et les balles où tremble l'argent bleu des sardines. Mais, las de la prendre trop souvent à rire et à trinquer avec des hommes, il entra chez un mareyeur pour demeurer sur les quais et tenir sa femme à l'œil. Elle le supporta avec une grande égalité d'humeur, plaisantant ses surprises, riant des scènes et se dédommageant au bal du dimanche, où elle s'amusait avec la fureur de sa jeunesse exubérante, redevenue la libre marée montante qui entraîne dans son flot les mâles ainsi que des épaves. Gaud rageait dans un coin, buvait, s'échauffait et parfois livrait au galant une bataille dont elle le dégageait avec des cris de mère pour l'emmener ensuite à son bras comme un enfant. Il décida de quitter le pays. Il y avait trop de fêtes, trop de tentations, surtout pendant ces tirs de campagne que les régiments de l'Ouest font au sable. Alors, c'est la kermesse, remplie d'uniformes écarlates et de la fierté brutale des jeunes hommes. La ville rutile au soleil et chante au lampion la nuit entière. Il y a des marches aux fanfares qui emportent les filles au long des compagnies. Il y a des concerts où l'on se cherche pour s'accoupler le soir. Et au noir, il y a sous bois des spasmes et des cris comme si la terre elle-même assouvissait son rut. Il tombe là quelques milliers de gaillards, tout raides de sève et qui ont 20 ans, parmi un peuple de chaudes lurones saumurées, et leur sang s'appelle au rythme large de l'instinct. Après, les soldats s'en reviennent avariés et les filles restent grosses. Gaud fit son ballot et emmena sa femme. Ils allèrent à Saint-Gilles, où ils ne trouvèrent point à vivre parce que personne n'avaient besoin de leur temps ni de leurs bras. Ils gagnèrent Noirmoutier. À l'Herbaudière, elle put s'embaucher aux usines et lui s'embarqua sur un cotre. Ils s'installèrent. La gaude accepta joyeusement la nouvelle existence et ne parut point regretter les sables. Les hommages de tous les gars vinrent à elle, là comme ailleurs, avec les diffamations de toutes les filles, et elle ne manqua pas d'amoureux, bien que Gaud montrât les dents. Au pilier, enfin, il avait espéré la paix. C'était l'exil sur un rocher dans le large. Il avait compté sans les gardes-phares, et par chance, encore, n'en avait-il qu'un seul à redouter. Aussi bien, quand il y a 2 jours, le brin d'amour mouillé sous l'île lui avait appris la mort du vieux Piron, il s'était réjoui d'être débarrassé du gars. Ça avait été 2 jours de délicieuse flemme, sans souci, le cœur débridé sous la vareuse, et Semelin l'avait entendu chanter d'une voix aigre au bord des falaises. Tout de même, il avait voulu connaître le remplaçant de Jean-Baptiste, et du plus loin qu'il aperçut le Martroger, il prit position sur son mât. Et voilà, ce fils de veste de Piron, lui-même, revenait, comme ça, à peine le bonhomme en terre. Pour le coup, c'était point naturel. L'après-midi, le soleil magnifique réalisa les présages des brumes matinales. La température s'alourdit et la mer eut des ondulations huileuses qui mouvaient d'énormes reflets pour les regards à son niveau. Mais Jean-Baptiste, élevé dans la tour, ne voyait qu'une plaine transparente, colorée par ses fonds, à la manière d'une carte d'atlas, en blond, en vert et en noir. Des vagues passaient, de longs rouleaux qui soulevaient par-dessous la surface sans la rider, et n'éclataient qu'aux heures des roches, brusquement comme du canon. Une fumée planait tout là-bas en s'étirant. C'est un grand navire chargé de vies humaines qui s'en va, imperceptible sur la mer si vaste dans son calme. Ça et là, des chaloupes faisaient des points téméraires. Noirmoutier, haussé par le mirage, semblait accroché aux nues. Les mouettes, aux ailes arquées, comme des pattes d'encre, maraudaient, et des vols triangulaires de ces oiseaux qui s'écrasent contre les phares dans la nuit d'épouvante traversaient le ciel. De la tour, Jean-Baptiste vit la Gaude sortir, un panier au bras, et il descendit rapidement pour la rejoindre. Dehors, il aperçut Gaud dévaler la falaise. Il ralentit, puis gagna la jetée, d'où il découvrit l'homme et la femme, sur la cale, au-dessous de lui. Elle tirait la corde grasse d'un vivier qui flottait le long du quai. Elle était penchée en avant, sans bonnet, la chevelure luisante et la nuque, tout imprégnée de soleil, orgueilleusement nue dans la lumière. Le collier rouge coupait sa chair comme une blessure. Gaud le toucha du doigt et demanda « D'où que ça te vient ? Un cadeau ?» Elle hissa sur la cale le vivier qui pissait à grand bruit et sentait les entrailles de la mer, une odeur d'alcali et de fermentation doucereuse. « Qui te l'a donné ?
Qui que ça peut te faire ?»
Elle poursuivit sa besogne, ouvrit le vivier. Là-haut, Jean-Baptiste observait, tapis le long de l'aïole. « Qui te l'a donné ?» insista Gaud en maître. Elle se redressa et, le regardant bien en face, « Jean-Baptiste !» Gaud n'avait pas bronché. Elle se recourba, enfonça son bras dans le vivier où l'on entendait gratter des pattes. Mais brusquement, la main de l'homme s'abattit, empoigna le collier dont l'élastique étiré cassa et lança les perles dans la mer. La Gaude était toute droite, le sang à la tête. Elle cria, le poing menaçant, « Tu me le paieras, mon cochon !» et escalada la falaise en claquant du sabot. Jean-Baptiste remarqua qu'elle avait au cou une trace rouge. Un peu saisi, Gaude contemplait des grains de corail immobiles sous le cristal de l'eau. La houle du large abaissait et levait tour à tour le niveau de la mer, le long du granit, avec un clapotis flaqué. Gaud haussa les épaules, choisit un homard dans le vivier qu'il repoussa, remonta la cale. Mais la voix de Jean-Baptiste le surprit au moment où il gagnait le haut.
« Il y aura de l'orage ce soir.
La mer crie !» Les deux hommes se toisèrent un instant et Gaud mâcha dans sa moustache.
« Peut-être ben